Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kain sur Internet et Clara Beniamino Barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Loïc Fouquet, bonjour.
Hello Clara.
Salut. Alors Loïc a été avocat dans un grand cabinet parisien et il est maintenant musicien professionnel. Avec nous également Mathieu Gaillet, salut.
Salut Clara.
Dans une autre vie, Mathieu a fait du droit, il est même allé jusqu'au Master 2 et aujourd'hui il est consultant de nouveaux médias. Et enfin, last but not least, Raphaël Liotier.
Hello Clara.
Et Raphaël est avocat dans un grand cabinet parisien où il fait du contentieux du numérique. Nous sommes tous réunis et ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils ont des pulls de Noël qui font mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour notre Christmas Special saison 1 consacré au droit des nudes. Je voudrais commencer par aborder le fait que, lors de la préparation de cette émission, plusieurs personnes dans l'équipe ignoraient la signification du terme « nude ». Donc, comme à chaque fois, commençons par des petites définitions. C'est quoi un nude ? Eh bien, pour aborder le sujet de façon légère pour commencer, c'est une photo, voire une vidéo, généralement prise en mode selfie, donc soi-même, assez suggestive et à caractère fripon. Bref.
Hey, c'est bien dit.
Fripon, non,
fripon.
C'est...
Est-ce que...
La friponnerie.
C'est ça. Article blu du code de la friponnerie. Mais entrons dans les termes techniques. Le droit des nudes s'articule par plusieurs grands concepts du droit que nous allons commencer à aborder tout de suite et qui sont le droit à la vie privée et le droit à l'image. Loïc.
Alors, bon, le droit à la vie privée, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une disposition du code civil, et c'est le fameux article 9. Même ceux qui ont fait assez peu de droit connaissent en principe cet article, qui dispose dans son alinéa 1 que chacun a droit au respect de sa vie privée. Mais il n'en dit pas beaucoup plus. Alors, merci le code civil.
Donc, hein. ce qu'elle dit, la loi française, pour protéger la vie privée, c'est chacun a droit au respect de sa vie privée.
Voilà, mais ça nous aide pas beaucoup si on définit pas vraiment ce que c'est la vie privée. Mais... En réalité, il n'y a pas de définition légale de la vie privée. On ne trouvera pas de définition dans le code.
Est-ce que c'est une mauvaise chose de ne pas avoir de définition légale ?
Eh bien non, parce que l'idée, c'est de ne pas enfermer le juge dans une définition qui l'empêcherait de juger, d'appréhender des cas spécifiques qui relèvent, selon lui, de la vie privée.
Et alors, qu'est-ce qui peut relever de la vie privée ?
Les juges en fait ont délimité au cours de la jurisprudence avec des décisions des cas d'espèce, ils ont délimité les contours de la notion en considérant comme des atteintes à la vie privée la diffusion d'informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne. Et en fait, il faudrait étudier tous les cas pour faire une liste un peu exhaustive de ce qui a été jugé jusque-là, mais on peut donner par exemple des informations sur la vie de famille, sentimentale, sexuelle du coup, informations financières, état de santé, convictions politiques, religieuses, voilà. Donc, merci les juges.
Merci les juges. Et donc voilà, ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition fixe, il n'y a pas vraiment un texte de loi qui dit « la vie privée, c'est tel truc », mais ça a été défini, ça a été un peu façonné au fur et à mesure des affaires qui ont été jugées, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'avoir une définition souple et qui peut s'adapter à son époque, à ses mœurs et à ce qui arrive à la personne en question. Mais du coup, le droit à l'image dans tout ça ?
Eh bien, le droit à l'image, c'est la même chose, tout simplement, parce que ça n'est pas un droit spécifiquement reconnu non plus par le Code civil. Il y a des dispositions qui traitent de l'image des personnes, mais on n'a pas une disposition, tout comme pour la vie privée, on n'a pas de disposition sur le droit à l'image spécifiquement. Donc, remercie le Code civil. Mais en fait, tout simplement, c'est parce que le droit à l'image, c'est une composante, un dérivé du droit à la vie privée. Donc le droit à l'image est en fait protégé sur la base de l'appréciation que font les juges de l'article 9 du Code civil et des affaires qui leur sont présentées. Donc remercie les juges.
Merci les juges, remercie les juges. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est le droit à l'image ?
Le droit à l'image, c'est en fait un droit exclusif. Donc c'est quoi un droit exclusif ? C'est un droit d'autoriser ou d'interdire à la discrétion du titulaire du droit. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire à la discrétion ?
À la discrétion, c'est qu'il est le seul à pouvoir en décider comme bon lui semble, sans que sa décision puisse être mise en cause.
Merci.
J'imagine. Là, je fais ça à la volée. Hein. Donc,
tu commences à savoir pourtant.
C'est un droit absolument, j'aurais dû le préparer. Bien fait pour moi. Donc,
le
un
droit
exclusif.
Un droit exclusif.
Donc, le droit à l'image, c'est un droit exclusif. Et chacun en dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite. Donc, chaque fixation, chaque conservation, diffusion publique doit en principe être autorisée par la personne concernée. Et les images peuvent être voilà, des photos, des vidéos sur lesquelles la personne apparaît, est reconnaissable, quel que soit le contexte. Donc, des vacances, événements familiaux, manifestations culturelles, religieuses.
Donc, on a bien compris que c'est un droit exclusif, mais ce n'est pas un droit absolu.
Absolument. Il y a bien des exceptions. Donc, certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées, sous réserve de ne pas porter atteinte à leur dignité. Donc, par exemple, on peut citer les images d'événements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des participants, au nom du droit à l'information, ou de la création artistique, par exemple. Mmh. On a les images de personnalités publiques dans l'exercice de leurs fonctions, donc des élus politiques, par exemple.
Alors, ce qui est assez rigolo sur l'image dans le cadre de l'activité publique, c'est que les étudiants en droit connaissent tous une très longue série de décisions sur la famille de Monaco.
Puisque... Oh là, oui.
Il y a une tonne de jurisprudence qu'on t'apprend, genre en L1, sur la famille de Monaco au prix Diane, la famille de Monaco à la cérémonie machin. Merci la famille de Monaco. Et donc je t'ai complètement coupé. Quelles autres exceptions, s'il te plaît ?
Oh bah, je pense qu'on a un peu, on va pas s'étendre, mais
on
a aussi des images qui illustrent des sujets historiques, par exemple. Voilà. Mais pour autant, il ne faut pas confondre vie privée et lieu non public. Donc, il ne suffit pas d'être dans un lieu public pour que toute image puisse être captée. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un lieu privé qu'on peut interdire toute captation d'image. Voilà. Donc, les juges vont apprécier les cas qui leur sont soumis toujours in concreto. C'est-à-dire qu'ils doivent définir pour chaque cas ce qui relève de la vie privée ou de la vie publique. Voilà. In concreto, c'est qu'il va apprécier au cas par cas.
Et si oui, spacan, parabellum. Ok, donc...
À vos souhaits.
À vos souhaits. Et pour en revenir au droit des nudes
Bon, on a aussi des dispositions pénales qui posent des sanctions, mais on en parlera après. Pour ce qui est des nudes, parlons des photos de charme en général. Si on va faire un petit shooting dans un magazine de charme, parce que voilà, on a eu une belle opportunité, en dévoilant certaines parties affriolantes et qu'on est OK avec ça, bon, évidemment, il faut signer un petit accord, un petit papier, il n'y a pas de problème. Donc la diffusion est autorisée. Par contre, les photos de son intimité corporelle, de son petit ouistiti, qui sont envoyées dans un cadre privé à une personne pour son usage privé, n'ont aucune vocation à se retrouver diffusées publiquement parce que l'émetteur de l'image n'autorise pas la diffusion publique.
L'émetteur de l'image, donc en fait la personne qui prend la photo et qui ensuite va là, tu vois, le cas classique du nude, de tu prends une photo un petit peu sexy et tu l'envoies à ton partenaire pour lui dire ce que tu as l'intention de faire quand tu le retrouves, par exemple.
Par exemple.
Donc cette photo-là, elle est émise par quelqu'un, elle est envoyée par quelqu'un, c'est l'émetteur. Et si cette personne-là, donc l'émetteur, n'a pas autorisé d'autres formes de diffusion, tu voilà. La gardes pour what ?
Et généralement, quand tu envoies nudes, t'envoies pas un petit accord de droit à l'image
six
à côté.
Hein,
tu fais pas une session quoi que ce soit. Bref,
session de mes droits d'exploitation.
Donc, si vous recevez un nudes, il y a aucune raison de faire tourner à ses potes, ni par message, ni sur Twitter.
On va revenir assez largement dessus, mais effectivement, nude 101. Quand on reçoit un nude, c'est pour l'usage personnel. Voilà. Donc, je suis ravie qu'en fait, pour Noël, on amène un peu de la joie chez les gens en leur parlant de photos de Ouistiti. Ce qu'on s'est dit, histoire de continuer à bien rigoler, c'est qu'on allait saupoudrer tous ces développements d'exemples de cas qui sont arrivés, donc de non-acrissales et grands cas historiques.
Revenons ensemble sur tout ce qui s'est passé dans l'aspect concret des choses.
Exactement, in concreto. Et donc du coup, c'est Mathieu qui va nous accompagner tout au long de l'émission, tout au long de cet épisode, pour nous raconter un peu des fois où ça a fuité, quoi. Donc Mathieu, par quoi on commence ?
On va commencer par revenir, donc tout ce qu'on se dit, merci Loïc pour ce résumé absolument passionnant. Dans l'aspect concret des choses, depuis une vingtaine d'années, on a Internet qui a grandi, qui est arrivé, qui nous a permis de faire beaucoup de choses et notamment d'échanger beaucoup d'informations. Depuis quelques années, on a aussi toutes ces nouvelles applications de rencontres, tout Twitter, etc. Donc en fait, concrètement, on communique de plus en plus et si on parle de droit des nudes, c'est aussi parce que du coup, il y a une nouvelle mode qui consiste à s'échanger des fichiers, des photos, des vidéos, etc. C'est devenu pour certaines générations quelque chose d'assez entre guillemets commun et qui provoque quelques cas qui relèvent un peu de ce qu'on se parle aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que ça existait avant, en fait. Il faut savoir que donc sur, dans le côté un peu obscur des choses, un peu affriolantes, etc., comme vous dites, très bien, on avait un monsieur comme Hugh Hefner, le monsieur qui a créé Playboy, ou Hustler, un autre magazine. Il y avait déjà un peu l'habitude de publier des photos dans les magazines qui n'étaient pas franchement ni autorisées.
La culture de la photo volée, un peu, quoi.
Voilà, et c'est pas une habitude qui a été créée avec Internet, donc encore une fois, il faut distinguer...
C'est pas la faute à Snapchat.
Voilà, il faut distinguer l'outil de l'usage, donc les outils numériques et la manière dont on peut échanger encore un peu plus aujourd'hui, il faut avoir l'usage qui va derrière. Est-ce que l'usage peut dériver quelquefois. Dans les cas les plus célèbres d'aujourd'hui, on a, je vous passe le cas d'une école en Pennsylvanie, c'était pas du tout lié au nude, mais qui avait piraté les ordinateurs de tous ses étudiants, c'était assez drôle. Ils avaient récupéré plus de 56 000 photos quand même.
Pour leur montrer que c'est dangereux.
Pour surveiller leurs agissements numériques.
Photos que de nus.
Non.
56 000.
Loin d'être 56 000, ça. Mais sans leur consentement. Donc c'était quand même assez impressionnant de la part d'une école.
Si vous êtes en établissement scolaire, ne faites pas ça, s'il vous plaît.
Voilà. Ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est toutes ces cas un peu célèbres. Alors, évidemment, tous ces anonymes qui aujourd'hui ont des problèmes liés à l'usage de leurs photos et vidéos, on a beaucoup d'affaires, mais c'est pas hyper connu, hyper relayé par les journaux. Nous, ce qui est beaucoup ressorti dans la presse et ce qui est un exemple assez frappant, c'est toutes les célébrités qui elles-mêmes s'envoient des petites photos, des petites vidéos, et puis voilà, dans le cercle privé, intime, et on a quelques hackers qui s'amusent et qui ont parfois beaucoup de temps à passer là-dessus. Ils s'amusent à détourner tout ça. Le plus connu, c'est en 2014, c'était donc c'est ce qui s'appelle le Celeb Gate, ou ça s'appelle aussi The Fappening. The Fappening.
Tu traduis Fappening ?
On va laisser nos amis anglophones et bilingues s'imaginer tout.
Moi,
ça.
Moi, je crois que Raphaël a très envie de traduire Fappening.
Ah, s'il y a des choses que j'ai envie de traduire, c'est bien Fappening. Ouais.
Joyeux Noël.
Poursuis.
Voilà, c'est un exemple assez concret. On pourrait parler des dérives du numérique, mais voilà, toutes les célébrités team Kim Kardashian, Marie-Kate Olsen, Kate Upton, et surtout Jennifer Lawrence, et quelques messieurs, je crois aussi, ont vu leurs photos et vidéos un peu privées brusquement mises sur la toile.
Et d'ailleurs, Jennifer Lawrence avait dit un truc hyper intéressant à ce sujet-là. Elle avait dit...
Ce n'est pas un scandale, c'est un crime sexuel.
Et oui, donc on est au-delà, en fait. Elle avait dit, it's a sex crime.
Et en fait, ce qui relève de toute la sous-culture de l'époque, donc c'était en 2014, toute la sous-culture, notamment des forums, et puis un peu du dark web, mais des forums de discussion qui étaient type 4chan, Reddit...
4chan ?
4chan.
4chan, non, comment on dit, je ne sais plus.
4chan.
4chan. Je reste en France, moi.
Est-ce que événement onanique, ça peut correspondre à Fappening ?
Ça fait 5 minutes.
Je réfléchis en parallèle. Oui, j'essaie de faire avancer les définitions.
Bon, c'était besoin de rien, envie de.
Merci, retrouvez-vous. Je tourne les mardis soirs.
Je pense qu'on lance la version anglaise bientôt. Mais voilà, toute cette culture des forums où les
Need
gens.
Need of nothing. Non, attends.
The yes. Needs no.
Besoin de rien. Need of nothing, want of the law, tu vois, ça marche bof, bref.
To win. Again, the no.
Continue.
Oh là 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 là.
Voilà, mais méfiez-vous un peu, mais ça a été des grandes discussions, toute cette culture des sous-forums et des espèces de discussions de masse où, du coup, tous ces contenus intimes circulent très très vite et sont en fait diffusés assez rapidement sans qu'on puisse en faire grand-chose. À l'époque, ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait déjà les théories du complot qui nous expliquaient que certaines stars diffusaient des vidéos ou des photos privées pour regagner un peu en popularité.
Comme Kim Kardashian.
Mais pas trop besoin en fait. Hein, c'est pour ça.
Non, mais c'était elle qui était ciblée surtout, je me rappelle.
Ouais, il y aurait cette rumeur comme quoi, en fait, la comme je crois que c'était, ça coïncidait pas trop mal avec le début de la diffusion de Keeping Up with the Kardashians, non, mais même de la première saison, tu vois, un truc comme ça.
Je suis pas calé.
Donc il y avait eu une petite théorie comme quoi, en fait, c'était le marketing un peu sauvage, tu vois. Mais bon, non, nous n'y croyons pas.
Partons du principe qu'il y a des histoires de consentement et surtout de
voilà. Oui, que là, personne n'était très d'accord, en fait.
De respect de vie privée. Et fort heureusement, ils ont réussi à retracer les hackers. Juste pour expliquer très très vite, mais c'était un peu les piratages de leur compte iCloud. Enfin, il y avait pas mal de piratages de compte iCloud ou Gmail sur des techniques de phishing assez basiques. Donc méfiez-vous si vous recevez un mail qui vous dit « Bonjour, est-ce que tu pourrais me passer ton mot de passe et ton login pour que j'aille sur ton compte ?»
Ah, c'est sur des trucs un peu comme ça.
Si vous ne recevez pas le faire.
Oui, mais un peu plus musclé, évidemment, je schématise, mais du coup, c'était, voilà, ils ont récupéré entre guillemets assez directement les accès, et voilà. Donc il y a eu pas mal de hackers qui ont été condamnés. C'était l'affaire la plus connue. Alors, je vous passe, il y a une jeune femme en Australie aussi, et ça s'appelait le DikiLeaks.
Que tu nous traduis DikiLeaks?
La fuite du zizi, apparemment.
Laquelle?
La fuite urinaire.
Grand Dieu. Voilà, donc là, c'était pour le coup, c'était des hommes qui avaient vu leurs photos mises en ligne par une jeune femme un petit peu qui voulait un peu se venger, pour le coup.
Oui, et nous allons voir tout à l'heure
on y reviendra.
Comment est-ce que ça s'est encadré par la loi. Raphaël, t'avais envie de dire quelque chose?
Non, c'est parce que je pensais aux techniques de phishing. C'est aussi souvent le cas où ils usurpent l'identité de Apple, par exemple, et où ils disent oh là là, mon Dieu, ça. On a eu. Voire même en disant, on a eu une fuite, on a eu un problème, il faut absolument que vous remettiez, enfin que vous modifiez vos codes.
Ah mais qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs quand on reçoit un truc et on a un peu un doute sur est-ce que c'est vraiment Apple qui me demande de réinitialiser ?
Ben on regarde l'émetteur, on regarde le lien vers lequel on est redirigé, et surtout on ne clique pas dessus, on va sur le site d'Apple et on le fait directement depuis le site d'Apple.
Merci. Jamais Raphaël.
Je vous en prie.
Voilà, comme quoi ça peut arriver assez simplement, même aux gens les plus reconnus de la planète. Voilà, c'était The Fappening, c'était l'exemple un peu le plus concret que je pouvais vous proposer. Et j'ai d'autres exemples d'autres choses dont on parlera tout à l'heure.
Dont on parle après. Nous allons maintenant aborder la question du revenge porn, ou vengeance pornographique en bon français. Les juristes connaissent bien la loi Tout Bon, qui est la loi qui nous oblige à utiliser des mots français partout. Du coup, techniquement, on ne peut plus dire disque jockey, on devrait dire platiniste. Et ça rend le monde un peu plus beau. Alors donc, la vengeance pornographique ou revenge porn, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la publication sur Internet, généralement sur Internet, d'un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne concernée. La personne concernée étant le plus souvent la personne représentée dans la dite image ou dans la dite vidéo. Et jusqu'à assez récemment, il existait des textes de loi française qui appréhendaient un peu la problématique, mais pas directement. Comme on l'a un petit peu déjà expliqué avant, la loi française est rédigée exprès, en termes suffisamment larges et suffisamment vagues, pour pouvoir normalement s'adapter à des hypothèses qui n'ont pas été prévues directement par la personne qui fait la loi, les personnes qui font la loi, à savoir les législateurs. On reviendra sur le processus législatif peut-être dans une prochaine émission, ça serait trop long. Mais donc du coup, l'idée était que jusqu'à présent, enfin jusqu'à assez récemment, jusqu'en 2016, j'y reviens juste après, on avait un texte de loi du code pénal, qui est l'article 226.1 et 226.2, qui encadrait et qui punissait les atteintes à l'intimité de la vie privée. Donc on n'est pas exactement dans le revenge porn, mais on était, alors j'allais dire on n'était pas complètement à poil. Ça dépend. Mais allez, riez à mes blagues, s'il vous plaît.
Bien vu.
On n'était pas complètement démunis quand ça nous arrivait, quand ce genre d'événement très désagréable nous arrivait, mais c'était pas complètement bien encadré. Donc ce que disait la loi jusqu'en 2016, c'était que le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, donc c'était l'intimité, hein, pas forcément des choses à caractère sexuel. Si jamais donc cette atteinte était faite en captant, sans le consentement de l'auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, sans le consentement de la personne, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, alors ces actes entraînaient potentiellement des sanctions qui allaient jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et il y a un complément en cas de conservation du fichier problématique. Donc en fait, on était sur le fait de punir quand il y avait une captation dans un lieu privé et quand quand cette vidéo ou cette photo captée dans un lieu privé était rediffusée. Mais ça encadre, voilà, et donc on était sur une atteinte à la vie privée. Donc ça encadrait un peu, mais c'était pas vraiment précis et c'était pas tout à fait assez efficace.
Ce qui est intéressant, surtout par rapport justement au code civil, c'est que dans le code civil, on a une définition qui n'est pas très claire et qui justement qui laisse l'appréciation des juges, alors qu'au pénal, on ne peut pas le faire, puisque les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Donc le juge n'a pas le droit d'inventer une incrimination pénale.
C'est très très important ça, effectivement. Alors on reviendra peut-être un autre jour sur le principe de l'égalité des délits et des peines.
Moi je dis ça comme ça. Hein.
Non, c'est hyper intéressant et tu fais bien de le faire remarquer, effectivement. Ce qu'on disait, c'est qu'au civil, les termes sont volontairement un peu larges. Et au pénal, justement, il faut que ça soit plus précis. Je sens Raphaël qui hoche la tête. Enfin non, je le vois d'ailleurs.
tout le monde me voit à mon avis. Au civil, effectivement, les termes peuvent parfois être assez larges, mais en réalité, ils sont quand même assez précis en soi. Au pénal, on fait très très attention à faire en sorte de ne pas mettre quelqu'un dans une situation où il serait
incapable de prévoir. Ouais.
Où il serait reconnu responsable de choses qui n'ont pas été prévues en fait par la loi et au sujet desquelles il ne pouvait pas en réalité se conformer puisqu'il n'en avait pas connaissance préalablement.
Il faut vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus parce que c'est vraiment hyper intéressant, effectivement. Bref, et donc la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire, qui date de 2016 et qui prévoit plein de trucs sur plein de sujets du genre l'open data des universités et l'e-sport prévoit également un texte qui permet d'appréhender de façon un peu plus précise le revenge porn. Et donc du coup, ce texte dit que pour les délits prévus donc aux articles précédents que j'ai cités tout à l'heure, quand ça porte sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel qui ont été pris dans un lieu public ou privé, alors la peine est de 2 ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende. Et sont punis des mêmes peines les diffusions d'images ou de paroles à caractère sexuel obtenues avec le consentement express ou présumé de la personne elle-même, si jamais donc ça a été fait sans le consentement. Ce qui est très 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 intéressant, c'est que ce nouveau texte permet de punir des diffusions de choses qui ont été captées dans un lieu public et dans un lieu privé, ce qui n'était pas le cas avant, et ça permet d'agir sur des paroles ou des images. C'est-à-dire que si vous faites une petite vidéo pour l'objet de votre affection où vous ne faites que parler et vous ne faites que émettre des intentions sur un moment de retrouvailles et vous êtes parfaitement habillé ou quoi que ce soit, ça peut être considéré quand même comme quelque chose à caractère sexuel, donc la diffusion non autorisée pourrait être considérée comme une forme de revenge porn et donc vous permettra, vous en tant que potentielle victime, de vous protéger de ça. Voilà. Et ensuite, il y a eu également un nouveau texte qui lui est encore bien plus récent puisqu'il est issu de la loi Schiappa de 2018, c'est bien ça ?
Du 3 août 2018, ouais, tout à fait.
Oh, tu te la pètes. Et cette loi, cette nouvelle loi Schiappa vient encore renforcer le dispositif puisqu'elle prévoit une incrimination des captations d'images impudiques. Alors, je vous avoue, quand on a préparé l'émission, même moi, j'étais un petit peu surprise et je connaissais pas vraiment la notion d'upskirt dont on m'a parlé, du coup.
Oui, que Loïc définissait très bien, d'ailleurs.
Comment ? Quoi ?
Vous savez quoi ? Je vais le faire moi. Je vais prendre la balle pour l'équipe. Des jupes hautes upskirt. Oui, c'est une jupe que tu portes au niveau du nombril. Tu vois, tu la remontes bien.
Et ça, c'est puni. Ça, c'est pénal. Hein.
Il est temps de faire un break de mi-saison. Et donc, du coup, ouais, qu'est-ce que c'est un upskirt ? Je vais le faire pour vous, messieurs. Pas l'upskirt, la définition. Donc, en fait, c'est une pratique qui se répand et qui est effectivement extrêmement problématique. Tu te balades, par exemple, au supermarché, tu portes une petite jupette et quelqu'un va filmer dessous ta jupette pour ensuite prendre ces images et les diffuser et globalement c'est pas uniquement des études sur la composition des sous-vêtements féminins etc.
Oui, ou la présence ou l'absence de vêtements féminins.
Vous m'aidez
petit
pas.
Souci de consentement sur cette pratique.
Oui, c'est vrai. Ou alors, est-ce qu'il faudrait que du coup les filles se baladent avec un panneau, avec marqué « Je suis hyper d'accord pour que vous filmiez sous ma jupe ». Tu vois, on est quand même très très loin de tu vois, ce jeu de dupes, voire sous la jupe des filles, qui était déjà un peu une agression sexuelle. En fait. Bref, c'est un peu le problème quand tu te mets à faire du droit, c'est que tu vois des agressions partout, y compris dans les chansons de Souchon. On l'embrasse. Donc voilà, vous êtes tous consternés, c'est génial. Regardez-moi roue libre comme ça.
On rappelle que c'est l'émission de Noël avec Alain Souchon.
On continue. Et donc du coup, les upskirts sont désormais un peu encadrés et punis par l'article 226.3.1 du code pénal qui prévoit des peines qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros d'amende dans certaines hypothèses. Et donc ça c'est constitué par le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu, a caché à la vue des tiers. Et donc du coup, c'est puni quand c'est commis à l'insu de la personne et sans son consentement. Et donc il y a des faits aggravants qui font monter les sanctions à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et qui sont notamment quand ça a lieu dans un véhicule affecté au transport collectif, ou lorsqu'il y a plusieurs personnes qui commettent l'infraction, ou même quand ça a été commis sur un mineur. Voilà, est-ce que Mathieu, tu nous ressoupoudrerais un peu?
Tout à fait. Revenons à l'usage concret des choses. Non, c'est très intéressant parce que là, on est dans un domaine, donc c'est vraiment l'idée qu'il y a des contenus circulent sur Internet sans forcément le consentement des personnes. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est des comportements de masse. Il y a vraiment des communautés un peu nocives sur Internet qui sont dédiées à ça. Je reviens sur l'exemple de certains messieurs, souvent des messieurs qui font ça, qui, dès 2010 ou un peu avant, avaient créé des sites Internet dédiés en fait au partage de ces contenus. Faut bien se rendre compte que c'est des sites qui sont alimentés par les internautes. Donc c'est pas un monsieur qui va passer
c'est de l'économie participative.
Voilà, c'est pas le métier d'un monsieur, même si lui va sans doute récolter un peu d'argent grâce à la publicité et d'autres. Et donc c'était un site qui s'appelait Is Anyone Up et qui donc du coup récoltait des photos souvent c'est votre ancien partenaire, votre ancien petit ami ou petite amie IE d'ailleurs qui envoie sur le site des photos qu'il avait récoltées dans les mois ou années précédentes. Donc c'est le fameux revenge porn. C'est vraiment ça. Ce qui est intéressant de noter pour nous juristes, c'est que ça ne concerne pas que ces photos et contenus, c'est que les communautés qui sont autour de ça sont tellement impliquées, on va dire, qu'elles rajoutent sur ces photos ou vidéos des noms, des adresses e-mail, les informations sur le lieu de travail, les liens vers les réseaux sociaux. Donc on est sur des comportements qui sont totalement intégrés aux habitudes numériques, et c'est en ça que c'est répréhensible d'une part. La communication de ces contenus, et en plus l'ajout d'informations, on va dire, un peu enrichies.
Ça fait partie un peu de cette culture de l'anonymat, tu vois, tu vas balancer...
Alors, très bon mot, très bonne transition, merci Clara. En fait, c'est des sites qui ont été visés par Anonymous.
Yeah!
Et Anonymous, des fois, ils font des choses, ils font pas que des choses... je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler
d'ailleurs.
D'eux. Mais ils ont aussi visé...
Si vous êtes Anonymous, envoyez-nous un petit mot pour nous dire ce que vous faites en ce moment.
Appelez-nous, on est à l'antenne. Et Anonymous a notamment visé ces sites-là pour les faire fermer et en tout cas freiner leur activité. Donc voilà, il faut bien se rendre compte, je pense qu'il y a d'autres sites qui émergent, hein, comme à chaque fois sur Internet, on coupe une tentacule, il y en a 3 qui repoussent.
Oh bah c'est heureux d'utiliser le mot tentacule pour parler de tout ça, super.
Vous m'aurez compris. Mais voilà, c'est des choses qui, encore une fois, c'est l'usage de tout ce qu'on fait d'Internet qui changera les choses. Là, il y a des usages des fois qui sont clairement répréhensibles.
Et dans les usages répréhensibles, là, on a parlé de qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à présent, on a parlé de qu'est-ce qui se passe quand tu avais fait une photo et qu'elle se retrouve dans un endroit où tu n'as pas très, très envie qu'elle se retrouve. Donc en fait, on s'est pour l'instant beaucoup placé du côté de la personne qui ne souhaitait pas que la photo soit diffusée. Mais il existe aussi l'hypothèse bien connue de tout plein d'internautes et d'internauteux. Alors oui, c'est segmentant, mais bon, c'est quand même un petit peu la réalité factuelle. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une photo d'un truc qu'on n'avait pas envie de voir? Bref, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une photo intime non sollicitée? Raphaël.
D'abord une surprise.
Bouh,
ça fait toujours son petit effet. En fait, tout va dépendre de la volonté qui a animé l'envoi de cette photo et aussi éventuellement un peu du destinataire.
Ah mais tout le monde se demande. Vraiment.
Tout le monde se demande.
Moi, j'ai jamais compris la volonté. Quelle est la volonté? Bref.
Bah, elle,
l'amour.
Il y en a plein. Ça peut être de l'amour. Ça peut être la beauté.
Rappelons que dans le cercle privé et intime. Pourquoi pas?
Oui, c'est ça, si tout le monde est d'accord. Mais là, on est sur les photos non désirées. Donc voilà, tu prends ton téléphone et... Alors,
ça peut être une information médicale aussi. Enfin, on ne peut pas exclure directement.
On parle d'une photo non désirée, oui, c'est ça. Tiens, du coup, tu pourrais me donner un conseil?
Ça, voilà, tout dépend.
Ouais, mais... Je te coupe une seconde, mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait quand on préparait l'émission. J'étais dans le métro l'autre jour et j'avais mon Bluetooth qui était activé et je reçois une notif sur mon écran qui me dit « Coucou, il y a machin qui veut t'envoyer une photo. » Donc quelqu'un que je connais pas qui se sert de mon Bluetooth pour essayer de m'envoyer un contenu. Est-ce que tu veux... J'ai dit non, j'avoue, j'ai pas eu le courage du journalisme d'investigation. Du coup, j'ai dit non, mais effectivement... Alors certes, il y a tous ces trucs de t'ouvre tes DM et il y a plein de photos que t'avais pas envie de voir ou sur une app de rencontre ou un truc comme ça, mais j'avais même pas l'idée, j'ai 85 ans et je vis en 1983, hein, mais j'avais même pas l'idée que tu peux juste être dans le métro et que quelqu'un peut choper ton Bluetooth et t'envoyer un truc. Bref, au moins t'as la faculté de dire non, je ne veux pas le recevoir, mais enfin c'est un rempart bien mince. Bref, qu'est-ce qui se passe alors?
Qu'est-ce qui se passe? Ben d'abord, on va exclure deux infractions. Donc là, on est dans l'hypothèse où on reçoit cette photo, qui est une photo d'une partie intime de quelqu'un, dont on n'avait pas du tout envie de, qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, qu'on n'avait pas spécialement sollicité non plus d'ailleurs. Et là, on va d'abord exclure deux infractions qui sont les infractions d'exhibition sexuelle, d'une part. Parce que là, c'est montrer dans un lieu public une partie de son corps dénudé, ou la totalité de son corps dénudé, ou en tout cas...
Tout ou partie,
et il faut que ce soit que la partie soit dénudée ou paraisse juste dénudée. Donc ça, on l'écarte. On écarte aussi la diffusion de messages contraires à la décence sur la voie publique ou dans des lieux publics. Là, c'est pareil, parce qu'on est dans un cadre public, on va diffuser une image... indécente.
Donc c'est pas ça.
C'est pas ça.
Alors qu'est-ce que c'est?
C'est pas ça. Ben l'envoi d'une photo non sollicitée ou d'une vidéo non sollicitée, en soi c'est pas en tant que tel appréhendé par le code pénal, sauf dans le cadre où elle crée des situations qui vont être intimidantes, hostiles ou offensantes, notamment. Alors, dans ce cadre-là, on va avoir deux cas distincts. On va avoir le premier cas qui va être le cas où on va recevoir à plusieurs reprises, avec des petits temps d'intervalle entre chaque envoi, chaque réception de messages, ces messages-ci qui vont créer cette situation-là, qui vont éventuellement soit porter atteinte à la dignité de la personne qui les reçoit, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Donc là, on est sur une réception répétée de messages.
Réception répétée de messages.
Et la répétition, c'est à partir de combien?
C'est à partir de deux, mais okay. Il faut que ce soit deux un peu espacés. Il ne faut pas que ce soit... Si tu reçois
message
deux messages d'affilée...
Deux images dedans, par exemple, il n'y a pas de répétition.
Ou même deux messages avec deux images, mais qui ont été envoyés dans la foulée, on ne peut pas dire... Enfin, en tout cas, on va difficilement entrer, au moment où on va caractériser l'infraction, dans le cadre du harcèlement sexuel, parce que c'est le cadre dans lequel on arrivait. Là, dans ce cadre-là...
La répétition permet de caractériser le harcèlement.
Exactement. Exactement. Et là, le harcèlement sexuel, c'est particulièrement puni par la loi, puisque on arrive à des peines qui vont de 2 ans d'emprisonnement à 30 000 euros d'amende, mais qui vont être portées à 3 ans et 45 000 euros d'amende, notamment dans le cas où on aura utilisé un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un service numérique ou électronique pour transmettre la photo de Ouistiti qui aurait servi à créer une situation un peu pénible pour son récepteur.
C'est ça, la photo de Ouistiti est une arme par destination, en somme.
Je
dis une connerie, vraiment.
Oui,
pas obligé,
non. Je suis en train de me demander.
Je me pose vraiment la question. Attends, du coup, que dit la jurisprudence?
On va faire plusieurs numéros sur ce sujet.
On y reviendra.
Mais le Ouistiti est-il une arme? C'est toute une question. Le c'est une question qui dépasse le droit.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hypothèse?
Eh ben, comme hypothèse, on en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle vient aussi de la loi Schiappa du 3 août 2018 et c'est une hypothèse qui a fait couler pas mal d'encre. C'est l'outrage sexiste. Mmh. C'est-à-dire, là, on est dans le cadre où on crée une situation intimidante, hostile ou offensante pour la personne qui le reçoit ou qui porte atteinte à sa dignité. Donc exactement comme dans le cadre du harcèlement. Sauf que là, on n'a pas besoin de la répétition. Là, un seul acte suffira à caractériser l'infraction. Étant entendu que là, la peine qui est prévue, c'est une contravention. Donc c'est bien nettement inférieur au délit, à la peine d'emprisonnement qui est encourue en cas de harcèlement. Le but, ça a été d'incriminer des comportements qui étaient à connotation sexuelle ou sexiste et qui étaient en fait écartés, qui n'étaient pas appréhendés à ce moment-là par le droit pénal, parce qu'on a une pléiade de cas dans lesquels on va pouvoir appréhender ces comportements, mais on n'entrait pas dans les cases, dans l'hypothèse où on avait une fois, à un moment, un comportement qui créait ces conséquences-là.
C'est ça, c'est-à-dire que quand tu recevais une fois une photo de Ouistiti non sollicitée et qu'il n'y avait pas particulièrement de... Alors, je dis ça avec toute la sensibilité du monde, hein. C'est pour extrêmement désagréable pour les Ouistiti. Et que du coup, tu recevais cette photo une fois et qu'il n'y avait pas particulièrement de contexte menaçant ou offensant, etc., il n'y avait pas grand-chose à faire légalement.
Non, c'est-à-dire que s'il y avait une situation qui était intimidante, hostile ou offensante, qui était créée par l'envoi de la photo, ou que cette photo portait atteinte à ta dignité, mais qu'il n'y avait qu'un seul envoi, qu'il n'y avait pas d'autre acte à côté, pas de parole à côté, pas d'envoi de message à côté, rien, s'il n'y avait qu'un seul acte, on n'entrait pas dans le cadre du harcèlement parce qu'il n'y avait pas de répétition. On n'était pas dans le cadre de violence parce qu'il n'y avait pas d'interruption temporaire de travail. Pas dans le cadre d'agression sexuelle parce qu'il n'y avait pas de contact sexuel.
Donc on est dans le cadre
pas dans le cadre d'exhibition sexuelle parce qu'il n'y avait pas de public. On était dans rien. Voilà. Et donc en fait, l'outrage sexiste, la contravention d'outrage sexiste, elle vient de dire dans ce cadre-là précis où il y a un seul envoi qui existe depuis le 3 août, où il y a un seul envoi d'une image et qui crée qui porte atteinte à la dignité de la personne qui la reçoit, ou qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante, là, à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans le cadre d'une infraction. Sachant que... On a vu que dans le cadre du harcèlement, il y avait une peine qui était plus forte, qui était prévue dans l'hypothèse où on avait l'utilisation d'un moyen de communication électronique ou numérique. Là, en l'occurrence, ce moyen n'est pas prévu par le texte et n'est pas non plus cité comme circonstance aggravante. Mmh. Donc, en l'état, on est certain que les comportements sexistes qui visent une personne sont englobés dans cette infraction d'outrage sexiste, mais comme la loi est toute récente, on n'a pas encore d'exemple d'application à l'envoi d'images.
Bon, donc il faut un peu essuyer les plâtres du Ouistiti.
En quelque sorte. Si on plâtre le Ouistiti,
si
oui,
tu plâtres le Ouistiti.
Ça dépend, c'est d'autres
et
pratiques.
Et dernière hypothèse peu réjouissante, le cas des mineurs.
Le cas des mineurs. Alors là, on a deux éléments. On a un élément qui est la mise en péril de mineurs. Donc là, ça va être le fait d'envoyer un message qui va être à caractère pornographique à destination d'un mineur. Là, ça va être un délit qui va être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et puis on a le cas encore plus funeste de l'exploitation pornographique de l'image d'un mineur. Et là, dans ce cadre précis, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et on va passer à 7 ans et à 100 000 euros d'amende dans le cadre où l'exploitation de cette image a été opérée par le biais d'un moyen de réseau de communication électronique.
Ok. Alors, saupoudrons une petite dernière fois. Mathieu.
Très rapidement. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a aussi une problématique, mais ce sera peut-être une autre émission, sur le fait que toutes ces circulations-là peuvent être souvent internationales. Après, on peut se poser des questions sur les origines des sites qui diffusent tout ça. Sur les fameuses modes de dick pic, je disais en introduction que c'était donc pour certaines générations un usage assez courant. Ce qui est assez drôle, c'est que je remercie Clara pour ses fêtes de fin d'année de m'avoir fait chercher sur mon ordinateur tous ces fabuleux termes dans les moteurs de recherche. C'était extraordinaire. J'en ai découvert que du coup, il y avait pas mal d'articles sur des sites qui ont des fois qui sont un peu sur la place publique, qui vous font les 10 commandements pour réussir sa photo dick pic.
Dans la catégorie savoir vivre.
Sachant qu'évidemment, le premier commandement étant d'avoir le consentement de la personne à qui on l'envoie. Of course. Je voulais préciser aussi très rapidement qu'au-delà de tous les anonymes qui peuvent rencontrer ce genre de problématiques, c'est pas forcément bien non plus d'envoyer ces photos à des célébrités. Je reviens sur les cas les plus connus, mais Miss France 2015, que vous connaissez tous, n'est-ce pas ?
Pas personnellement, mais...
Voilà. Camille Serre, du coup, fait partie des célébrités qui, à un moment, ont poussé un beau coup de gueule en disant « J'aimerais bien qu'on arrête de m'envoyer des photos. » Et je pense qu'à peu près toutes les, malheureusement, toutes les femmes un peu connues qui ont des comptes Instagram, Twitter, etc., qui sont très connectées, voient leur messagerie privée remplie de jolies photos. Enfin, jolies, pas forcément, d'ailleurs, mais...
Et Camille Serre, de aussi.
Donc, c'est pas non plus une bonne pratique d'envoyer ces photos. Et c'est pas parce que la personne est connue que c'est autorisé.
Et Camille Serre avait dit quelque chose d'assez intéressant là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un lui avait dit « Oh là là, vous en avez pas marre de recevoir des photos intimes d'admirateurs ?» Et elle avait répondu un truc du genre, un peu comme Jennifer Lawrence, « Ce ne sont pas des photos intimes d'admirateurs, c'est du harcèlement sexuel !» Et je m'étais... Pardon, je crie dans le micro. Et je m'étais dit, Camille Serre est intelligente, Camille Serre dit des choses vraies. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait été une super réaction et j'avais envie de vous en reparler.
Voilà, et je pense que c'est à peu près tout pour moi. Je voulais vous parler de sextape aussi, mais c'est pas le sujet du jour, mais mes recherches m'ont
amené
à ça.
Noël prochain,
aussi.
Droit des sextapes.
Voilà.
Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça... Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait cesser cette situation problématique quand elle nous arrive ?
Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire cesser lorsqu'on a des images qui sont diffusées alors qu'elles étaient envoyées juste à son ex ou une petite copine ? Donc, on a l'article 9 du Code civil qui dit que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Et ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Donc tout simplement, on va voir le juge et on lui demande de faire cesser les agissements. Soit on va voir directement la personne concernée, donc l'émetteur si on le connaît, mais on peut aussi se dire que ça serait pas mal d'aller voir les intermédiaires, donc les services.
Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est quoi un service ?
Les intermédiaires, ça va être les éditeurs des services tels de soit de messagerie, soit de...
Tu nous donnes un exemple ?
Soit de réseaux sociaux, c'est Instagram par exemple, okay. C'est Twitter, ou même si on a des photos qui sont visibles sur les moteurs de recherche, on va voir directement Google.
Donc
Google
en fait, tu sollicites le juge par l'intermédiaire de ton avocat, et exactement. Tu lui demandes quoi exactement ?
On lui demande de faire cesser la diffusion, tout simplement. Et alors, en fait, la difficulté, c'est que les intermédiaires, ils peuvent se retrancher derrière leur statut d'intermédiaire ou d'hébergeur. Donc, c'est un statut protecteur instauré par la directive e-commerce de 2000. On en a déjà parlé, je crois. On peut toujours aller checker l'article 14 pour les plus curieux. Mais voilà, il y a une obligation pour ces intermédiaires de supprimer, si on leur notifie un contenu illicite qui est diffusé sur leur réseau, sur leur service, mais il n'y a pas nécessairement une obligation de filtrer les nouvelles mises en ligne de ces contenus-là. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de surveillance générale de l'article, c'est l'article 15 de la directive.
C'est pas au cœur un peu de la réforme européenne en cours ? Une autre émission. Quand
même. Et voilà, justement. Mais on a un cas célèbre, justement, par contre, où finalement on a vu que c'était pas si sûr qu'il n'y avait pas d'obligation de stay down, comme on dit. Donc,
put down, stay down. Yeah.
Et c'était il y a 5 ans, c'était le patron de la. Enfin, c'était même il y a 10 ans, le patron de la FIA, de la Fédération internationale de l'automobile, Max Mosley, qui avait vu ces vidéos de débats. Sadomaso qui avait été diffusé en ligne.
10h12, Sadomaso.
Voilà, c'est et fini et bas Sadomaso.
Alors on est un peu loin des news, mais
c'est l'idée.
Et donc en 2013, ce charmant monsieur avait obtenu des tribunaux français et allemands la suppression la suppression et l'interdiction de la réapparition des contenus sur Google.
Et ça a très bien marché, pas vrai?
Pendant 5 ans, ça n'a pas forcément très bien marché, mais bon, il l'avait obtenu, c'était déjà ça. Et Google avait fait appel, mais bon, finalement, ils avaient conclu une transaction, donc un accord entre eux pour régler le litige, et il a abandonné son appel. Voilà.
Ouais, parce que le cadre juridique interdit absolument qu'il y ait une obligation générale de surveillance de la part des intermédiaires techniques, mais on peut demander à ce que le juge ordonnance des mesures temporaires et ciblées de contrôle. Ciblée.
Mais après, qu'est-ce qu'une mesure temporaire et ciblée ? Aujourd'hui encore, on essaye de le déterminer en jurisprudence et voilà, certains dossiers qui me reviennent en tête.
Oui, non, c'est des problématiques.
Coucou à Nomos.
Bonjour Nomos. Allez, voilà. Oui, tout ça pour dire que les problématiques sont pas encore complètement balisées, ça progresse doucement, mais c'est vrai que le droit a encore un peu de mal à appréhender tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir un cadre juridique qui vous dit ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire, ça permet de vous protéger et ça permet de protéger les usages un peu chouettes. Chose qu'on a oublié de dire, il me semble, si jamais vous recevez une photo non sollicitée, vous n'avez pas le droit de faire un screen et de la rebalancer sur les réseaux. C'est la même règle qui s'applique que quand vous envoyez une photo sollicitée à l'objet de votre affection ou à un objet d'une forme d'affection. Donc, le cadre juridique s'applique dans tous les sens. Je ne sais pas comment. Exactement, pour toutes les positions, quel que soit l'émetteur, toutes les situations. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la loi, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là pour vous protéger dans ces cadres-là, et que pour l'instant, ça tâtonne un peu, mais ça progresse tout doucement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs ?
Joyeux Noël !
Joyeux Noël, bonne fête !
Et une très bonne année !
Une très bonne année. C'était Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge.